comme chaque vendredi, nous vous proposons un essai qui a marqué l'histoire de la pensée économique. Aujourd'hui, la monnaie, l'intérêt et les prix de Don Patinkin, un essai publié en 1956. Et c'est Goulven Rubin qui va nous en parler. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur d'économie à l'Université Paris 1, directeur du master de sciences économiques et sociales, et vous avez consacré votre thèse à la contribution de Don Patinkin à ce qu'on appelle la synthèse néoclassique, on va en parler. Mais d'abord, comment présenter cet économiste israélo-américain en quelques mots, Goulven Rubin ?
Eh bien, je dirais que Patinkin, c'est un des principaux économistes keynésiens de l'après-guerre, les années 50 et 60. Il est né donc en 1922 à Chicago. Et il est formé dans un contexte qui est très particulier, qui est le contexte des années 40, juste après la Grande Dépression. Et puis, c'est aussi un contexte très particulier parce que, dans les années 40, l'Université de Chicago accueille la Coles Commission, qui est une institution très importante. C'est une institution qui est fondée par un homme d'affaires qui s'appelle Alfred Coles, qui est un financier, qui espère que des économistes vont l'aider à prévoir les cours de bourse. Et donc, il fonde cette institution, qui, de façon assez paradoxale ou ironique, va devenir, dans les années 40, un lieu où on retrouve tout un tas d'économistes européens, d'inclinations plutôt socialistes, et qui réfléchissent aux moyens de planifier l'économie américaine, et qui vont développer des outils qui sont à la base de la macroéconomie, en fait, des années 50 et 60.
Et dont Don Patinkin se rattache à ce mouvement.
Donc Patinkin est formé, en fait, fait sa thèse à la Coles Commission. Donc il est formé à l'Université de Chicago par des économistes qui sont en grande partie des libéraux, qui sont Frank Knight, Jacob Weiner, des gens qui défendent l'économie de marché et ses vertus. Et en même temps, il est formé par Oscar Lange, qui est un économiste socialiste, en fait, qui va participer à l'établissement du régime communiste en Pologne après-guerre et qui est un des membres les plus actifs de la Coles Commission.
Et alors son ouvrage, La monnaie, l'intérêt et les prix, est publié en 1956, du moins sa première version. Et pour l'économiste Paul Samuelson, je cite, « Patinkin a écrit le livre définitif sur l'argent, le livre que Keynes n'a jamais écrit ». Quel est l'objectif que se fixe Patinkin dans cet ouvrage, Goulven Rubin ?
En fait, ce livre, c'est la mise en forme d'idées qu'il commence à développer en 1947, justement dans ce contexte des années 40. Et c'est une tentative de mettre au clair la théorie keynésienne et de préciser ses fondements. Et ces fondements, d'après Patinkin, sont à trouver dans la théorie valrassienne. Et donc il va essayer de reconstruire la théorie keynésienne en s'appuyant sur la théorie valrassienne, en la reliant à la théorie valrassienne.
Il tente une synthèse que certains économistes keynésiens estiment impossible, entre alors, justement la microéconomie valrassienne et la macroéconomie keynésienne.
Donc, à l'époque, il y a tout un courant de pensée qui émerge très vite, en fait, hein, après l'apparition de l'œuvre de Keynes, donc de son ouvrage « La théorie générale ». C'est un ouvrage qui est très complexe, qui est très touffu, dans lequel il y a un modèle très simple, quelques équations, qu'on va extraire très vite. Hein, et donc, des gens comme Hicks et d'autres, Lang va participer à ça, Harrod, tout un tas d'économistes vont extraire un modèle économique qu'on appelle le modèle ISLM. Mais en extrayant ce modèle de l'œuvre de Keynes, ils mettent de côté les fondements assez touffus, assez sophistiqués qui sont là, qui sont pas systématiquement élaborés. Et donc, on va chercher de nouveaux fondements. Et Lang, en 38, propose de les trouver chez Walras. Et donc, Patinkin s'inscrit dans cette approche-là.
Et alors, est-ce que Patinkin a réussi, lui qui cherchait justement à réconcilier sur le plan théorique les positions de Keynes et les thèses classiques, selon vous, Goulven Rubin ?
Alors, il ne s'agit pas de répondre en disant oui ou non, mais il a réussi une chose très importante. Il a effectivement clarifié le modèle qui a été extrait de la théorie générale, a été grandement clarifié en utilisant la méthode valrassienne. Et donc, il y a plusieurs points qui étaient très problématiques. Un point qui a surgi très vite, c'est la question de la monnaie. Dans la théorie de Keynes, la monnaie est quelque chose de très important. Et dans le modèle valrassien, le statut de la monnaie est problématique. Et il y a quelque chose qui est la dichotomie entre le secteur réel et le secteur monétaire.
Et ce que, justement, Don Patinkin va essayer de faire, c'est de penser la monnaie comme une marchandise. Qu'est-ce que ça implique, ça, Goulven Rubin ?
Oui, il va proposer un moyen d'intégrer la monnaie dans la théorie valrassienne, avec l'idée que cette approche est le socle sur lequel on va pouvoir reconstruire la théorie keynésienne. Et donc l'idée est résumée dans la première phrase de son ouvrage, qui dit que la monnaie achète les biens, mais les biens n'achètent pas la monnaie.
Alors qu'est-ce que ça signifie ?
Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que dans l'approche valrassienne, les approches classiques en fait, qu'on trouve au début du XXe siècle, on a une équation spéciale qui vise à déterminer le niveau des prix. Si la quantité de monnaie double, le niveau des prix doit doubler.
C'est la théorie quantitative.
C'est la théorie quantitative
de la monnaie.
Et quand on s'intéresse à un système de marché, on a aussi des marchés des biens, sur lesquels on doit avoir des prix monétaires. Mais dans l'approche valrassienne, on suppose qu'en fait, les demandes et les offres de tous les biens ne dépendent pas des prix monétaires. Voilà, c'est ça la dichotomie. Ça dépend que des prix relatifs. Et donc, on a quelque chose qui, en fait, est contradictoire, puisque ça veut dire que si la quantité de monnaie change et que les prix doublent, d'après les hypothèses même de la théorie, ça n'a aucun effet sur les marchés des biens. Donc, on ne comprend pas comment les prix monétaires bougent. Et donc, c'est cette contradiction qui est pointée, alors, par Lang d'abord, à vrai dire, et reprise par Patinkin, et lui va proposer un moyen de la résoudre, en disant, si on veut comprendre la détermination du niveau des prix, et donc donner des fondements rigoureux à la théorie quantitative, il faut aller voir ce qui se passe sur le marché des biens.
Et alors, qu'est-ce qu'il voit sur le marché des biens?
Et il amène ce qu'il appelle l'effet d'encaisse réelle. Chaque individu détient une certaine somme de monnaie, une encaisse monétaire, et le pouvoir d'achat de cette encaisse monétaire dépend du niveau des prix monétaires. L'idée, c'est qu'est-ce qui se passe quand la quantité de monnaie double? Donc, les encaisses monétaires des individus vont augmenter, et donc ils vont être plus riches si les prix n'ont pas bougé. Donc, ils vont chercher à dépenser plus. Comme ils dépensent plus, comme ils achètent davantage, les prix vont se mettre à monter. Mais comme les prix montent, leur pouvoir d'achat, la valeur de leur encaisse réelle, qui est l'encaisse monétaire divisée par les prix, c'est le truc technique, va baisser.
Peut-être qu'il faut expliquer la différence, Goulven Rubin, entre ce qu'on appelle les prix monétaires et les prix des biens, tout simplement.
Quand on raisonne sur une économie complexe, avec un grand nombre de marchés et de marchandises, on peut très bien exprimer le prix du pain en carottes, ou le prix du blé en avoine, comme aurait dit Valras. Et on parle à ce moment-là de prix relatifs. Mais ce qui nous intéresse dans la vraie vie, ce sont les prix monétaires. C'est-à-dire que le prix du pain, on l'exprime en euros. Mmh. Donc ça, c'est les prix monétaires. Et donc dans le système valrassien, on détermine des prix relatifs, le prix de l'avoine en blé, par exemple. Mais on ne sait pas comment se détermine le prix monétaire du blé. Et c'est ça qui
d'où cette volonté, effectivement, de Patinkin d'intégrer à la théorie économique générale cette théorie monétaire qui manquait à Valras. C'est bien cela?
Voilà, c'est ça.
Vous l'avez dit, Patinkin est un grand spécialiste de Keynes, sans doute l'un des plus grands, mais il a aussi écrit sur l'histoire de l'école de Chicago, école qui, contrairement à ce que prétend Milton Friedman, était interventionniste dans les années 30 et 40, selon Patinkin. Il s'est opposé à Friedman sur ce point.
En fait, il s'est opposé à Friedman parce que Friedman, dans les années 60, pour défendre sa position, en fait, va raconter une histoire qui est la suivante. Il explique, il défend une théorie quantitative qui trouve ses racines dans l'école de Chicago des années 30. Et ses racines se trouvent dans une tradition orale. Et c'est ça que Patinkin va contester.
Il conteste cette généalogie libérale que revendique Milton Friedman.
Très amusante, il montre que, en fait, une influence majeure à Chicago dans les années 30 est celle de Keynes. Et au fond, la théorie quantitative telle qu'elle est enseignée à cette époque est une théorie quantitative évoluée qui effectivement vient de l'influence de l'université de Cambridge en Angleterre, mais à travers Keynes.
Donc Friedman est un keynésien qui
Exactement.
Ne s'assume pas.
Et c'est la conclusion de son article, il explique qu'au fond la théorie quantitative à la Friedman doit beaucoup à Keynes.
Mais avec de grosses différences.
Alors évidemment, il y a des différences. Les thèses de Friedman, les conclusions de Friedman ne sont pas du tout les conclusions de Keynes.
C'est ce que dit Patinkin, effectivement, on peut s'appuyer sur des théories qui sont très proches et déboucher sur des politiques qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Don Patinkin va partir s'installer en Israël à partir de 1949. Il occupera différentes fonctions à l'université et dans l'administration publique. Quelle a été son influence sur l'économie israélienne, Goulven Rubin?
Alors, son influence, apparemment, a été vraiment énorme. Il arrive, il est très jeune encore. Il a 27 ans lorsqu'il est recruté à l'université hébraïque de Jérusalem. Il n'existe pas encore de département d'économie et il est, en fait, constitué pratiquement à son arrivée. Et très vite, Patinkin va s'imposer, apparemment, par son charisme. Et il va former les premiers économistes qui vont être équipés des outils de raisonnement qui s'impose dans les années 50, aux États-Unis en particulier, mais aussi en Angleterre, moins en France en réalité.
Comment on peut voir concrètement cette influence sur la politique économique israélienne des années 50-60?
Une des mesures de politique qui a été très importante dans les années 50 en Israël, c'est une mesure qui a consisté à dévaluer la monnaie pour mettre fin à une inflation qui était extrêmement forte et à un déficit de la balance commerciale qui était aussi très important. Donc la situation économique était très mauvaise et Patinkin a recommandé cette dévaluation et cette politique semble avoir eu des effets très bénéfiques puisque l'économie israélienne a bénéficié de 10 ans de croissance très forte et une très forte modération de l'inflation. Et donc cette réussite évidemment a installé Patinkin comme une figure marquante et on a écrit que c'était Mister Économie en Israël, par exemple.
Il y avait même des Patinkin Boys, voilà, qui étaient ses disciples.
Ses étudiants, en fait, ses premiers étudiants, pratiquement à son arrivée, ont commencé tout de suite à coloniser le ministère des Finances israélien. Puis, les générations suivantes sont arrivées à la Banque d'Israël. Et donc, les étudiants de Patinkin, en fait, sont ceux qui ont conduit
les politiques
économiques israéliennes pendant très longtemps.
Quel est l'héritage de Don Patinkin, qui, je le rappelle, a été à la fois un théoricien et un historien de la pensée? Il a par exemple donné naissance en France à ce qu'on a appelé l'école du déséquilibre. Quelle est cette école, en quoi?
Ça, c'est un héritage effectivement très important. Alors, c'est pas un héritage actuel, parce que cette école a eu une vie brève. Mais effectivement, il est à l'origine de la théorie du déséquilibre. Ça, c'est l'idée qui m'a le plus intéressé, qui est une idée majeure. Il est le premier à dire la théorie de Keynes, la théorie keynésienne, c'est une théorie du déséquilibre. Alors, ça veut dire que Patinkin donc, a des proximités, c'est un néoclassique, il défend la théorie quantitative, mais c'est aussi quelqu'un qui croit que la théorie keynésienne est une théorie qui ne repose pas sur la rigidité des salaires. Il est très attaché à un chapitre de l'œuvre de Keynes, qui est le chapitre 19, dans lequel Keynes soutient que lorsque les salaires baissent, ça ne ramène pas le plein emploi. Et donc, il veut construire une théorie keynésienne sans hypothèse de salaire rigide, ce qui est sa grande originalité. Et si on fait ça, eh bien, ça veut dire que quand il y a du chômage et que l'offre de travail dépasse la demande, les salaires vont baisser. C'est ce qu'il appelle une situation de déséquilibre, une situation dynamique. Les prix, les salaires vont bouger. Et il voit l'économie comme étant en perpétuel déséquilibre. Et sa thèse, c'est de dire, au fond, la théorie keynésienne, c'est une théorie qui dit que on finira toujours par revenir au plein emploi. Simplement, ça prend du temps. Le retour au plein emploi est très lent. Et par conséquent, l'État doit intervenir pour accélérer le retour au plein emploi. Maintenant, cette idée du déséquilibre, il n'a pas été capable de la formaliser, mais elle a donné lieu ensuite à des développements extrêmement formalisés, très solides, qui ont été le fait en particulier d'économistes français dans les années 70, Jean-Pascal Benassi, Edmond Malinvaux en particulier.
Vous diriez que finalement Don Patinkin illustre le passage au keynésianisme mainstream, on pourrait dire ça pour conclure?
Oui, absolument. C'est l'histoire du livre de Patinkin, de la monnaie, l'intérêt et les prix. C'est l'histoire du passage de l'économie de Keynes à l'économie keynésienne, au sens du keynésianisme mainstream qui va dominer pendant toutes les Trente Glorieuses.
Et qui a été remis en question par les post-keynésiens, par exemple, qui considèrent que le message de Keynes a été dévoyé.
Absolument. Donc, Patinkin a été beaucoup attaqué par les post-keynésiens, mais qui sont, dans l'après-guerre, au fond, très minoritaires. Et au fond, le post-keynésianisme n'existe pas véritablement comme courant constitué dans l'après-guerre. C'est un courant qui se constitue véritablement à partir des années 70, en se dotant d'un journal. Et c'est un keynésianisme attaqué, certainement, de ce point de vue-là.
Merci beaucoup, Goulven Rubin, de nous avoir fait découvrir La monnaie, l'intérêt et les prix de Don Patinkin, qui est paru aux Presses universitaires de France. Je renvoie par ailleurs les auditeurs à votre ouvrage Introduction à la macroéconomie, qui est également paru au PUF. Un grand merci.